À voix nue. Cette semaine, Amandine Casadamon rencontre Philippe Bouvard. Ce soir, un cancre rusé.
Homme de presse, chroniqueur, éditorialiste, patron de presse et de salle de spectacle, auteur de théâtre, producteur, animateur de radio et de télévision, 65 publications à votre actif, et tout cela presque en même temps et depuis plus de 60 ans. On se demande comment faites-vous, Philippe Bouvard? Vous êtes ce que l'on pourrait appeler un hyperactif prolifique, le travail ne vous fait pas peur, au contraire, il vous a nourri 7 jours sur 7 et 14 heures par jour depuis que vous avez mis le pied en 1953 au Figaro. Ce qui vous a probablement permis d'éviter les insomnies, et pourtant, vous n'êtes pas un grand sportif, votre meilleur muscle pourrait être votre cerveau, que vous n'avez jamais cessé d'exercer tout au long de votre parcours de journaliste et de joueur. Vous êtes connu et reconnu pour votre sens de la formule et de la répartie. Vos interviews sont taquines, piquantes et innombrables. Et vous avez animé le journal de 13h de RTL sans aucune note. Philippe Bouvard, vous êtes l'une des grandes figures médiatiques populaires. Plusieurs générations vous connaissent et vous venez de fêter vos 89 ans du haut desquels vous n'avez pas perdu beaucoup de cheveux. Et vous avez su garder votre œil bleu et pétillant. Philippe Bouvard, nous allons avec vous toute cette semaine et en 5 actes tenter de dresser votre portrait en espérant que vous livrerez aux auditeurs de France Culture quelques scoops. Aujourd'hui, nous ouvrons sur le cancre que vous avez été, mais avec une envie précoce d'écrire et de faire fortune. À 8 ans, alors que vous vous baladez sur la Croisette, vous croisez Jean Cocteau en limousine et vous vous dites qu'écrire amène à la fortune. Bonsoir Philippe Bouvard, c'est la première star que vous ayez croisée, Jean Cocteau ?
Oui, bah, c'est la première fois que je mets les pieds sur la Côte d'Azur, mais pour mon 8e anniversaire, mes parents m'ont offert à la fois le voyage et le séjour. Et puis, une grosse voiture noire s'arrête à la hauteur de l'endroit de la Croisette où nous nous trouvions, en descend après la portière ouverte par un chauffeur en casquette, un monsieur très très maigre, presque émacié, mais avec un beau visage, des cheveux violets, et on me dit c'est Jean Cocteau, c'est le poète. Alors je me suis imaginé longtemps que les poètes étaient des gens très riches qui roulaient dans des grosses voitures noires avec des chauffeurs à casquettes, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Je voudrais quand même revenir sur votre aimable présentation. D'abord, je répondrai d'une phrase à deux de vos constatations. Le travail est mon sport. Ensuite, n'attendez pas de scoop car je ne parle que le français.
Quel enfant étiez-vous, Philippe Bouvard ?
Alors, j'étais un gamin difficile. Alors, il n'y avait pas d'autiste à l'époque, hein. Il n'y avait pas d'Alzheimer non plus. Donc, j'ai dû être un peu retardé, ou en tout cas intenable, sans qu'on ose me le dire vraiment. Non, j'étais difficile, je n'acceptais aucune tutelle, j'aimais pas beaucoup la classe, et en tout cas, si j'aimais déjà le français, je détestais toutes les disciplines qui devaient d'ailleurs plus tard me valoir des 0 pointés au bac, c'est-à-dire la physique, la chimie, les mathématiques. Enfin, j'étais pas tout à fait complet. D'autre part, j'avais souffert d'un RAA, c'était le rhumatisme articulaire aigu, qui m'éloignait du sport. D'ailleurs, j'y suis jamais revenu, sauf pendant mon service militaire, où on m'a trouvé assez en forme pour servir mon pays, ce que d'ailleurs j'ai apprécié. Et aujourd'hui, je regrette encore qu'on ait supprimé, que mes petits-enfants ne fassent pas ce service.
Et d'ailleurs, quand vous avez fait votre service militaire, c'est là où vous avez créé le premier journal ?
Oui, oui.
Le Kléber
Digest ? Enfin non, parce que j'ai fait des journaux partout où je suis passé. J'ai fait un petit journal chez moi quand j'avais 5 ans. et grâce à un vieil oncle imprimeur, et je l'ai distribué en famille, ça n'a pas été plus loin. Ensuite, à la communale, j'ai fait un petit journal, au lycée, j'ai fait un journal, et aussitôt arrivé sous l'uniforme, j'ai fait un journal qui m'a valu d'être sous-officier avant les autres. Mais j'avais senti qu'il fallait, pour échapper à cette condition militaire qui était si peu faite pour moi, que je fasse mes premières armes à ce qui allait être mes armes dans le civil. Je me suis fait renvoyer de 7 lycées, pas véritablement renvoyé, parce que comme j'avais une mère extrêmement sympathique, et elle savait nouer des liens d'amitié, en tout cas de sympathie avec les proviseurs, qui, lorsqu'ils voyaient qu'il n'y avait rien de bon à espérer de moi, lui téléphonaient, lui disaient « il vaudrait mieux que vous retireriez votre fils avant qu'on s'en sépare ». Donc, j'aurais dû, au bout de 3 exclusions, être exclu définitivement des lycées, et il n'en a rien été. Bon, enfin, c'était idiot d'ailleurs, parce que c'était des choses vénielles. Bon, par exemple, j'étais au lycée Chaptal. Bon, et puis je l'ai fait comme j'avais fait dans le précédent lycée, qui était le lycée Carnot, à la récréation de la mi-matinée. J'ai été boire un verre au café d'en face. Eh ben, je suis jamais rentré de nouveau au lycée Chaptal parce que mon manège avait été repéré et il était interdit de sortir du lycée avant que les cours soient finis. C'était bébête, mais j'en tirais une espèce de fierté qui faisait que je continuais en me croyant au-dessus des règlements comme certains politiques se croient aujourd'hui au-dessus des lois.
Mais votre mère, elle vous disputait pas de toutes ces bêtises? Elle
si,
était un peu complice.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le refrain que j'ai entendu durant toute mon enfance, venant de tous les membres de ma famille, c'était « tu finiras sur l'échafaud ». C'est vous dire que j'ai respiré un grand coup quand est arrivé Robert Badinter. Mais enfin, c'était quelque chose qui, pour des manquements qui n'avaient pas grande importance, me clouaient au pilori et me mettaient au banc de l'humanité. Et ça, c'était pas bon pour moi, parce que si j'avais manqué de confiance en moi, ce qui n'était déjà pas le cas, j'aurais tout arrêté, et aujourd'hui, je sais pas ce que je serais devenu. Alors que quand même, bon, je remettais des devoirs en français, en alexandrin, qui parfois faisaient 30 ou 40 feuillets, et que le professeur ne lisait pas, mais qui brandissait devant la classe en disant « Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire, un devoir de 40 feuillets comme votre camarade Bouvard, parce que j'ai pas le temps de le lire. »
Il y avait un sujet d'ailleurs, c'était voyage autour de votre chambre. Vous
oui.
avez écrit 60 feuillets même.
Oui. Alors ce voyage autour de ma chambre, j'avais une petite chambre avec très peu de meubles, avec quelques babioles, mais ça m'avait inspiré. Et je pense aujourd'hui que c'est peut-être ce jour-là que j'ai fait mes vrais débuts de journaliste.
Vous vous souvenez ce que vous avez développé dans cette copie de 60 feuillets autour de
oui,
votre chambre?
C'est-à-dire que il y avait derrière chaque babiole, même le papier peint de la chambre dont les dessins m'obsédaient, il y avait un souvenir. Et puis, il y avait cet univers un peu confiné, mais qui était tout à moi et où je veillais à ce qu'on n'entre à point.
Est-ce que vous pourriez décrire la maison dans laquelle vous avez vécu ?
Maison est un grand mot. Pendant mes 15 premières années, nous avons habité avec mes parents rue de Maubeuge, qui est une rue bourgeoise, sauf que nous étions du côté cour. Et puis, il y avait vraiment un distinguo que la concierge, la toute puissante concierge, faisait respecter. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les gens sur la rue, bon, c'était le gratin, c'était l'élite, et puis il y avait les gens sur cour, et ils avaient moins de moyens, mais ils avaient la même adresse. L'appartement était très simple. Il y avait quand même 4 pièces qui m'autorisaient à avoir ma chambre, qui était tout au bout d'un long couloir et qui donnait sur une cour infâme, mais située au 5e étage. Alors j'apercevais quand même un coin de ciel.
J'ai même lu que vos parents descendaient des malles entières de manuscrits tellement vous écriviez.
Je ne pense pas que ça allait jusque-là, mais j'ai le souvenir que chaque fois qu'on déménageait, il y avait effectivement une malle qui était remplie de mes petits manuscrits.
Et c'était plutôt des journaux de votre Alors, quotidien ?
Alors, c'était de tout. Il y avait une tragédie en 5 actes et en vers qui s'intitulait « Judas ». Il y avait ensuite des petits billets avant la lettre où je parlais des gens que j'admirais ou que je n'aimais pas. Il y avait aussi, alors un peu plus tard, une pièce qui s'intitulait « Page 216 ». C'était la page de mon manuel d'histoire où j'avais trouvé le sujet d'une pièce qu'avec mes camarades du lycée à l'époque, Jacques Decour, devenu depuis Rollin, nous avons joué devant les parents et dans un théâtre parisien qui était la salle d'Iéna, aujourd'hui disparue. Donc, y avait quand même si ça paraît un grand mot, une activité culturelle, une propension à sortir de la vie courante pour en tirer des témoignages à mon échelle.
Finalement, beaucoup de choses vous inspiraient, Philippe Bouvard ?
Tout m'inspirait, comme tout m'inspire aujourd'hui, ou presque. J'étais inspiré par la famille, qui à certains moments me paraissait caricaturale. J'étais inspiré par les petits copains, qui me regardaient de haut parce que je ne jouais pas à la baballe. J'étais inspiré par des professeurs qui étaient tous plus ou moins des maniaques. Je me souviens du professeur de latin, qui était par ailleurs un bon pédagogue, mais qui toutes les 2 minutes, et ça finissait par être lancinant, passait un doigt furteur entre son faux col à coin cassé et son cou. Et le professeur de français, dont le bureau à claire-voie laissait apercevoir qu'il se frottait les cuisses pendant tout son cours. Mais c'est pour vous dire que j'étais déjà un observateur très attentif et très critique de tout ce que je voyais autour de moi. Peut-être que c'était aussi le fait de meubler un temps qui n'était pas entièrement consacré aux études, puisque je ne suivais pas, comme on disait. Je ne suivais rien, je regardais la pendule, ce qui d'ailleurs était facile parce que j'étais toujours au fond de la classe, le refuge des mauvais élèves, des cancres, comme on les appelait pas encore. On disait pas un décrocheur, hein, à l'époque, hein. Bon. Lorsque le cours se finissait, le professeur me faisait venir au premier rang pour faire rire les élèves avec des réponses qui étaient totalement à côté de la plaque.
Comme un clown, presque. Philippe Bouvard ?
Je dirais pas comme un clown, mais comme l'exemple vivant qu'il fallait pas suivre. Ça s'est répété d'ailleurs au service militaire, ou lors du parcours du combattant, qui est pas l'épreuve la plus agréable, puisque elle consistait à ramper sous des fils de fer barbelés. On me réservait pour la fin, afin que mes copains se paient une bonne panne de rire.
Et vous étiez bon camarade, Philippe Bouvard, plutôt ?
Oui, je crois que j'étais bon camarade. J'étais bon camarade parce que il y avait des petits centres d'intérêt que j'inventais pour regrouper autour de moi des gens qui voulaient bien me supporter. J'avais ainsi créé un cercle philosophique, excusez du peu, parce que je devais avoir 12-13 ans, un cercle philosophique à l'enseigne du matérialisme dialectique. Alors, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je le sais à peine aujourd'hui, mais grâce à cette initiative, j'avais pu regrouper autour de moi des gens dont j'ai retrouvé certains d'ailleurs à des postes intellectuels quelques années plus tard.
J'aimerais bien revenir sur votre famille, votre mère, votre père. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez plutôt une famille caricaturale. Je me suis demandé en quoi votre famille était caricaturale, Philippe Bouvard.
Oh, caricatural, parce que bon, le mot est pas exact, et en tout cas, il est inexactement méchant. Je veux dire que c'est une famille dont je me rendais déjà compte, mais confusément, qu'elle était composée d'archétypes familiaux. Alors, il y avait le grand-père ancien combattant, bon. Il y avait la grand-mère qui avait eu la poliomyélite et qui, hélas, ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant. Il y avait la maman qui était opticienne la journée et qui, pour faire bouillir la marmite, donnait des cours de musique le soir à des petites bourgeoises qui n'en finissaient pas de massacrer la marche turque. Il y avait le père biologique, comme on dit aujourd'hui, qui avait disparu 2 heures après ma naissance en emportant les bijoux de ma mère parce que c'était un homme prévoyant. Il y avait des petits cousins qu'on me citait en exemple parce qu'ils travaillaient mieux que moi et qui faisaient des études de médecine, qui d'ailleurs les ont pas empêchés de finir vendeurs dans une chemiserie. Tout ça crée autour de moi un climat détestable parce que lors de la tournée du dimanche, je pense qu'aujourd'hui, personne n'ose plus imposer à des enfants cette tournée, parce que mes grands-parents composaient une famille nombreuse, me faisaient me frotter à la barbe des vieux oncles et à la moustache des vieilles tantes. C'était affreux. J'arrivais, on me disait « Alors, qu'est-ce que t'as fait en classe cette semaine ?» De dire « Tout le monde était au courant. » C'est si... J'ai pu avoir ensuite une vie normale et peut-être un peu plus comblée qu'à l'ordinaire. C'est parce que j'avais un heureux tempérament et puis peut-être que j'ai trouvé, sur le tard, quelques professeurs qui m'ont tendu la main.
Comment était l'atmosphère à la maison, Philippe Bouvard ?
L'atmosphère, elle a été... bonne parce que ma mère s'était remariée avec un homme extrêmement gentil qui était tailleur pour hommes et qui m'a élevé comme son fils et que j'ai aimé comme s'il était mon père. Mais à partir de la déclaration de guerre et de la fin de la drôle de guerre qui est intervenue très vite, il y a eu 4 années éprouvantes durant laquelle il a fallu changer tous les mois ou tous les 2 mois de point de chute pour éviter d'être rattrapé par la police française ou par la Gestapo.
Quels souvenirs ça a laissé en vous, cette période difficile ?
Oh, des souvenirs extrêmement vivaces, dont j'ai parfois un peu honte qu'ils débouchent sur un manque d'enthousiasme pour l'Europe. Je ne peux pas oublier la Shoah, je ne peux pas oublier, même si la plupart des gens qui ont commis ces atrocités ont disparu, je ne peux pas oublier qu'un peuple érudit, musicien, moderne, a envoyé dans des fours à gaz autant de femmes et d'enfants. Je ne peux pas, c'est quelque chose qui me bloque.
Vous y pensez beaucoup encore aujourd'hui ?
Oui, ça durera jusqu'à la fin.
Vous parliez de musique. Votre mère jouait du piano, je crois, oui, tous les jours. Est-ce que c'est cela qui vous a donné le goût pour la musique classique ?
Oui, sûrement. Enfin, c'est pas les petites bourgeoises avec leurs marches turques, hein. Mais ma mère jouait des morceaux parfois difficiles. Elle aimait Debussy. Moi, j'étais déjà séduit par le contrepoint. Et d'ailleurs, j'étais entouré par des camarades qui devaient faire le conservatoire, parfois obtenir le prix de Rome. Et j'ai baigné dans un environnement musical où les grandes orgues remplaçaient la guitare.
Et vous n'avez pas eu envie, vous, de jouer d'un
Si,
instrument?
beaucoup, je voulais jouer du piano, mais ma mère exigeait que préalablement j'apprenne le solfège. Et ça, mon allergie à l'enseignement s'y opposait. Eh ben, pas de solfège, pas de piano.
Est-ce que, enfant ou adolescent, vous aviez des personnes, des célébrités que vous admiriez?
Oh oui, bien sûr. Il y en avait un, par exemple, qui me fascinait, qui était Fernandel. Et il habitait à avenue Trudaine, pas loin de chez moi, quand moi, j'étais rue de Maubeuge. Ce type qui avait tourné des dizaines de films, qui avait un comique très sûr, presque mécanique, mais aussi des possibilités dramatiques, me fascinait. Mais il n'y avait pas de télé à l'époque, hein, donc c'était le cinéma ou rien du tout.
La radio un petit peu aussi.
La radio, alors j'écoutais sur un poste à Galène, Radio Tour Eiffel. Et là, il y avait un concert, et surtout au Théâtre des Champs-Élysées le dimanche soir. Et je m'en suis moqué par la suite, mais je buvais du petit lait à ce moment-là. Il y avait un speaker, comme on les appelait, qui s'appelait Jean Toscane. Et qui, d'une voix de rogomme incroyable, parlait un quart d'heure avant qu'on entende 5 minutes de musique.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez de la musique classique? Qu'est-ce que ça vous procure?
La musique, j'en fais une cure tous les samedis matins, et généralement extrêmement classique. J'ai pas un catalogue très étendu, ce qui fait que je suis souvent obligé d'écouter les mêmes choses, mais est-ce qu'on peut se lasser de Jean-Sébastien Bach ou de Mozart?
Vous avez vécu à Montmartre quand vous étiez enfant. Quel souvenir gardez-vous de Montmartre, Philippe Bouvard?
Oh, un souvenir amusé, un peu libertin. C'était le quartier chaud de la capitale. Et d'ailleurs, de la classe du lycée Rollin que j'occupais quand j'étais en troisième, on voyait de l'autre côté, au même étage, des dames dans le plus simple appareil et qui visiblement faisaient le commerce de leur corps et qui nous adressaient des petits signes complices.
Et vous parliez à ces dames qui vous faisaient des petits signes?
Oui, quand nous pouvions nous rencontrer parfois, oui, bien sûr, je les admirais beaucoup, et d'ailleurs, longtemps, j'ai envisagé de faire comme elles, mais bon, c'était pas ma vocation vraiment, parce que d'abord, j'avais peut-être pas le sexe requis, étant donné que j'étais pas homosexuel, et puis d'autre part, j'avais peut-être pas le physique qui convenait pour faire une belle carrière. Mais si vous voulez, j'étais attiré par cet univers qui était quand même pas très recommandable, hein, avec des mauvais garçons, avec parfois des descentes de police. Mais tout ça a été illustré tellement aimablement par le cinéma que c'était dédramatisé.
Vous auriez aimé être une femme, Philippe Bouvard?
J'aurais aimé être une femme, oui. Alors, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'avec l'égalité des sexes, ça sert plus à rien.
Quels étaient les avantages des femmes d'avant alors?
Ah, les femmes d'avant, elles avaient droit au respect, Certaines avaient le droit de ne pas travailler toute leur vie, ce qui d'ailleurs pas à mon sens un véritable avantage, mais enfin, elles avaient une place à part dans la société. Elles étaient un peu révérées comme les reines des abeilles dans la ruche. Et puis, elles étaient jolies, et puis elles étaient bien habillées, et puis elles avaient des bijoux, et puis on leur baisait la main, et puis c'était un univers complètement faux, mais c'était celui qu'on nous proposait.
Théâtral, un univers théâtral presque.
Oui, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le théâtre et très peu le cinéma. Au théâtre, je suis à l'unisson avec les acteurs. Quand c'est bon, je prends ma part de leur succès. Quand c'est mauvais, je souffre avec eux. Je vois une action se dérouler, j'y crois, même si y a un entracte et s'ils reviennent avec une barbe nouvelle et un costume qui n'avait pas à l'acte précédent. Alors que au cinéma, il se passe rien. Je suis dans le noir avec des gens que je connais pas. De temps en temps, le film cassait. Alors si, pour emmener des petites copines, échanger un premier baiser, le cinéma, c'était la garçonnière du pauvre. J'ai de très bons souvenirs, non pas de films que je regardais peu, mais des campagnes dont j'essayais de lire les dialogues sur les lèvres.
Finalement, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre enfance, Philippe Bouvard ?
Jusqu'à l'âge de 10 ans, un regard émerveillé, parce que même si ça marchait pas en classe, la communale, c'était quand même plus facile. Et puis, j'étais pas encore pris en grippe par la famille. J'ai eu droit à beaucoup de choses. Et même pendant l'occupation, où ma mère s'est évertuée, est-ce que je manque de rien? Non, c'est une enfance dorée, de petits bourgeois, mais dorée. C'est après que ça s'est gâté.
Pourquoi ça s'est gâté ?
Ça s'est gâté dans le monde parce qu'il y a eu la guerre, et ça s'est gâté parce que je suis devenu un sacripant.
Un petit voyou, comme on dit maintenant ?
Non, pas un voyou. Sauf que, il m'est arrivé de puiser dans le sac de ma mère pour satisfaire ma passion pour les autotamponneuses.
Ah oui, qu'est-ce que vous aimiez dans les autotamponneuses ? C'était dans...
J'aimais parce que j'avais le droit de conduire, ce qui évidemment a été refusé à l'âge que j'avais. J'aimais parce qu'on pouvait rentrer dans une autre voiture sans risquer un constat et des reproches, parce qu'il y avait une ambiance de fête, parce qu'il y avait de la musique, parce que ça allait très vite et parce que je ressortais de là absolument moulu, tellement j'avais pris de coups dans les reins. Non, c'est ça, c'est un grand souvenir.
Est-ce que c'était pas une manière d'aller plus vite vers l'âge adulte, ces autotamponneuses, Philippe Bouvard ?
Oui, mais tout est une manière d'aller plus vite sur l'âge adulte. Les cigarettes faites de feuilles de marronnier roulées dans du papier journal qui me faisaient horriblement tousser, c'était pour avoir l'air d'un grand. La sortie avec des filles que j'osais à peine regarder, c'était pour avoir déjà l'air d'être un séducteur. Mais c'était un peu ridicule et c'était souvent raté.
Merci Philippe Bouvard. On se retrouve demain soir avec vous sur France Culture dans À Voix Nue.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Amandine Casadamon avec Philippe Bouvard. À Voix Nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.